Bonjour à toutes et à tous, on part à la ferme dans le mag aujourd'hui, direction Flavin, chez Olivier Berdaguet qui élève des brebis. Des brebis qui n'attendent qu'une chose dans la journée, la sortie en direction de la prairie.
Donc du coup, alors moi c'est Olivier Berdaguet, j'ai 24 ans, ça fait maintenant 4 ans que je suis installé sur le GAEC de la Porte, donc à Flavin, dans l'Aveyron, à 10 minutes de Rodez. Voilà, sur une ferme d'une cinquantaine d'hectares que mes parents avaient repris il y a 20 ans. Voilà, il y a toujours eu des brebis, même avant mes parents, il y avait des brebis, des vaches. Hein, ça fait longtemps qu'il y a, alors, je ne saurais pas dire l'historique à long terme, mais il y a toujours eu des brebis sur cette ferme, ça c'est sûr. Voilà, pour parler un peu de mon parcours professionnel, ben, j'ai fait mes études à La Roque, au lycée agricole de La Roque. Et ensuite, un BTS gestion d'exploitation agricole à la Chambre d'agriculture à Rodez.
Allez, on ouvre aux portes aux brebis, direction donc la prairie.
Ça, j'appelle ça une prairie temporaire, exactement. C'est une prairie qui est là pour une durée déterminée. Alors, en général, c'est entre 5 et 6 ans. Parce qu'après, on va y faire, par exemple, une betterave, toujours pareil, pour nourrir les brebis, ou du maïs pour nourrir les brebis aussi. Et ça va revenir après en prairie temporaire, où il n'y aura peut-être pas de la luzerne, il y aura peut-être du régras. Mais voilà, c'est des prairies qu'on laboure pas très régulièrement, qui sont plus productives que des prairies qu'on appellera permanentes, et qui, elles, sont là depuis toujours et qui n'ont jamais été labourées. Je sors les animaux parce que ben, c'est ce qui est le plus naturel, qu'elles mangent de l'herbe toute l'année. Et du coup, on les sort à peu près du mois de mars, quand l'année s'y prête bien, à décembre, où elles vont manger alors, différentes choses. Alors en début de saison, plus de l'herbe, des types des régras, ce genre de choses. Et ensuite l'été, des luzernes, voilà, pour faire des rations assez équilibrées. Et elles ont toujours un peu de foin à l'intérieur pour amener le côté sec donc, dont elles ont besoin aussi.
La luzerne qu'elles sont en train de manger là devant nous là. Mais ce qui détermine que ce soit de la luzerne plutôt qu'autre chose et la vôtre fraîche plutôt que d'autres possibilités, c'est parce que c'est à disposition, que c'est pratique, c'est là, ou ça a une importance aussi derrière pour les produits que vous fabriquez?
La luzerne, c'est le meilleur aliment pour la brebis parce que c'est une grosse source de protéines qui va très bien pousser sur nos terrains, qui sont argilo-calcaires, je dirais. Et ensuite, par rapport aux produits que l'on fabrique, alors à titre uniquement de l'exploitation où on fait du fromage fermier, ça va apporter un rendement fromager qui est intéressant. Mais également pour les sociétés des caves, l'industriel de Roquefort qui nous collecte pour faire du Roquefort, ça va également les intéresser. Pour la même manière, parce qu'en fait on fait le même métier, ils auront plus de rendement sur les fromages. Alors, est-ce que ça va impacter sur le goût? Certainement que la pâture impactera plus que le foin, par exemple, puis ça va varier selon la saison. Mais en soi, étant donné que pour Roquefort, ben, c'est le lait de plusieurs fermes qui est mélangé, le fait que moi je donne de la luzerne ne va pas impacter sur le goût du fromage à proprement parler. Mais sur mes fromages, oui, on va plus voir de typicité.
Ouais, parce que du fromage, vous en produisez toute l'année.
Alors non, je produis du fromage pendant qu'elles sont en lactation, c'est-à-dire elles mettent bas au mois de janvier, on commence la lactation au mois de février, et là je vais faire du fromage du coup du mois de février jusqu'au mois de fin septembre. Voilà, on va arrêter dans une semaine.
Et alors fin septembre, après vous continuez quand même de travailler, qu'est-ce que vous faites?
Alors à ce moment-là, on se repose d'abord, hein, comme les brebis, on prend un peu plus de temps pour nous. Mais on va toujours, pour ce qui est des fromages qu'on a fabriqués, on va toujours les soigner en cave et puis s'occuper de tout ce qui est commercialisation, voilà, sur les marchés, dans des biocoop, dans des magasins de producteurs, voilà, tout ce genre de choses. Donc on travaille encore un peu, mais moins quand même. C'est important d'avoir cette coupure là pour nous.
Oui, après le côté commercialisation, comme vous dites, ouais, chez vous c'est varié, c'est oui. Par choix, ça s'est imposé.
C'est venu tout seul un petit peu en fait, parce que c'est une activité qui est assez récente, qui a 2 ans maintenant. Le côté vente directe sur les marchés, dont c'est mon père qui s'en occupe, est intéressant parce que ben, le consommateur est au plus près du producteur pour lui poser toutes les questions qu'il a envie de poser. Puis ça rapproche un peu le producteur du consommateur, alors que jusqu'à présent, ça s'était un peu éloigné, donc ça c'est bien pour tout le monde, je pense. Ça permet de remettre dans son contexte l'agriculture actuelle. Et ensuite, les autres modes de commercialisation, donc indirect, on va dire, par des revendeurs, grossistes. Celui-là, il est intéressant pour nous parce que, bien que la marge soit moins importante, ça nous demande moins de travail parce qu'en fait, on va mobiliser moins de notre temps pour vendre. Ça va être des plus grosses quantités, mais moins de temps pour vendre. Et c'est bien d'avoir un peu des deux parce que comme ça, on n'a pas tous les œufs dans le même panier et on peut proposer nos produits à tout type de personnes, c'est-à-dire des gens qui préfèrent faire le marché, ils viendront sur le marché, les gens qui veulent aller à la Biocoop, ils iront à la Biocoop, des gens qui veulent aller chercher des paniers dans des magasins de producteurs, ils iront dans des magasins de producteurs. Ça peut correspondre du coup à un peu toutes les éthiques de consommation des gens.
Alors du coup, peut-être des intérêts, alors sur le marché en particulier, parce que là, papa y croise du monde, mais même vous avec les petits producteurs, enfin distributeurs ici que vous avez locaux, que vous connaissez forcément, vous avez un retour?
Alors par rapport au retour des clients et des gens qui nous prennent du fromage, au final, je vois que toute la gamme est appréciée. Alors nous, ce sera principalement de la tome et un petit peu de yaourt. Et je vois que y en a pour tous les goûts. Alors le yaourt est très à la mode. Et c'est vrai que c'est un produit super en dessert parce que c'est quelque chose de très onctueux. Et pour les gens qui sont intolérants au lactose, c'est beaucoup plus digeste. Après, le fromage de brebis, c'est quelque chose qui n'est pas traditionnellement fait en Aveyron de manière fermière. Le Roquefort, c'est fait, mais c'est fait dans des laiteries, c'est pas du tout le même produit. Et la tome de brebis, c'est pas quelque chose qui est traditionnel en Aveyron. Et je vois que les Aveyronnais apprécient la tome, alors qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieille, il y en a pour tous les goûts. Et même, on trouve d'autres débouchés pour nos sous-produits, comme par exemple tout le petit lait issu de la fabrication des fromages. Alors, tout le petit lait ne sera pas valorisé, pour le moment rien qu'une partie, mais on va le donner à des cochons pour les engraisser et faire du coup de la charcuterie derrière. Donc on essaye de boucler un peu le cycle du produit, du lait, et même les déchets sont retraités, quoi.
Par rapport à vos parents,
oui,
qui avaient l'exploitation avant, bon oui, le métier a dû changer, les machines, bon d'accord, mais l'exploitation en elle-même, vous l'avez fait évoluer dans telle ou telle direction ou vous poursuivez sur la lancée de la famille?
Alors mes parents ont fait pas mal évoluer l'exploitation. Disons qu'ils ont fait une grosse évolution, un gros virage à 90 degrés, c'est-à-dire qu'en 2009, ils sont passés en agriculture biologique. Donc ça a été un grand pas pour eux parce qu'il y avait plein de questions, plein d'incertitudes. Mais au final, par conviction personnelle, ils y sont passés et ils sont très heureux de l'avoir fait. Moi, je reviendrai pas en arrière, bien qu'il y a des pratiques en agriculture biologique qui pourraient être plus vertueuses, parce qu'on n'est pas toujours à fond écolo quand on est bio. Donc ça, c'était le gros changement qu'ont fait mes parents. Après, des évolutions sur l'exploitation que moi, j'ai pu faire. Alors, c'est principalement la mise en place de l'atelier de transformation, donc, c'est-à-dire de faire du fromage fermier sur la ferme. Pour mes 4 ans de travail sur la ferme, c'est le premier virage que j'ai fait prendre à la ferme.
Donc là, on se retrouve devant des bottes de foin.
Voilà, devant des bottes de foin. Donc le stockage de tout ce qui est la partie fourrage hivernal, dont on va se servir donc pour nourrir les brebis cet hiver, donc qui est composé, on va dire, à 80% de foin et 20% d'ensilage de maïs. Pour faire une ration complète qui contient de l'énergie, de la protéine.
Tout vient de l'exploitation ou...
Tout vient de l'exploitation. Ouais. Pour cette partie fourrage, tout vient de l'exploitation. Ensuite, pour tout ce qui est concentré, ça c'est acheté à des coopératives ou à des industriels. Par exemple, pour tout ce qui est tourteau, de soja ou de l'aliment, de la céréale, ça c'est acheté à l'extérieur.
Alors là, on entend beaucoup parler de sécheresse, de choses comme ça, d'inquiétude éventuellement pour certains pour l'hiver. Là, niveau fourrage, vous êtes bien ou pas?
Eh bien, j'espère. Alors, ça devrait être pas trop mal. Après, ça sera sur... ça va dépendre de l'année prochaine. S'il y a un bon printemps, s'il faut pas trop donner à l'intérieur. Après, si le printemps est sec, eh bien, forcément, le manque de stock de cette année va faire qu'au printemps prochain... s'il n'y a pas grand-chose, on sera obligé d'acheter du foin pour donner au printemps prochain.
Le foin, il paraît qu'il a vachement augmenté, du coup.
Eh bien, alors, le foin, tout a augmenté, de toute façon, mais sur une année comme ça, où toute la France a été touchée, et pas seulement certaines régions, ben, de fait, l'offre est moins importante de foin à vendre, donc le foin est plus cher, la luzerne déshydratée est plus chère, la céréale est plus chère, donc ça va coûter plus cher de produire un litre de lait cette année. C'est pour ça que c'est d'autant plus important pour moi de faire de la transformation à la ferme et donc de tirer la valeur ajoutée de ce produit-là. Parce que au moins là, je suis maître de mon prix de revient et j'impacte sur le prix du produit ce que ça me coûte. Donc, et c'est la manière la plus logique pour nous de bien vivre et de faire comprendre aux consommateurs que voilà, ben, cette année c'est compliqué et peut-être que l'année prochaine ça le sera moins, bien que je pense pas que ça soit le cas, mais voilà, ça nous permet à nous de mieux gérer notre prix de produit.
Alors il y a quand même des trucs que vous pouvez pas gérer, enfin si, peut-être à la limite l'électricité ça va plus tard, oui. Mais vous avez des frais comme tout le monde, l'inflation, c'est quoi le truc qui vous coûte le plus cher là, ou qui a le plus augmenté surtout?
Alors le truc qui nous coûte le plus cher, c'est l'alimentation, hein, c'est ce dont on parle, c'est le plus gros poste d'achat chez nous. Après je dirais en second tout ce qui est l'énergie, hein. C'est sûr que l'électricité ça sera de plus en plus cher. Pour moi, c'est sûr que si on peut s'en produire une partie, c'est une bonne chose. Mais pour moi, ce qui sera l'avenir, c'est de consommer le moins, en fait, le moins possible. Et voilà, on n'y est pas encore, mais il va falloir tendre vers des choses comme ça. Et pareil, pour tout ce qui est ressources en eau, il va falloir apprendre à économiser l'eau. Et ça, dans une ferme, il faut savoir que c'est quand même une ferme, c'est très énergivore. Donc, on n'est pas au point encore, mais on essaie de s'améliorer chaque année.
Donc là, Olivier, on arrive à la bergerie.
Voilà, exactement, la bergerie qui date des années 70 à peu près, et où il y a toutes les brebis laitières, donc les mères du troupeau.
D'accord, bon, celles qui sont plus dedans, celles qui sont sorties, là, casser
voilà,
la croûte.
Qu'on vient d'amener au champ. Ouais.
D'accord. Tu me montres, tu ouvres la porte ?
Allez.
Alors, une bergerie, bon, j'ai envie de dire, grâce à l'amour et dans le pré.
Oui.
On en a vu, mais quand même, bon, tu peux nous décrire un petit peu, c'est quoi? Oui, c'est des, bon, bah, il y a de l'espace pour les brebis. C'est quoi cette machine là?
Alors, donc, dans une bergerie, alors principalement, bah, il y a les aires de couchage, voilà, où qu'on empaille tous les jours pour quasi une litière bien propre. Et ensuite, il y a en plein milieu des tapis d'alimentation où on met tout ce qui est foin concentré dessus. Et il y a des petits robots mobiles qui mettent l'aliment, justement, quand on n'est pas là, ils le mettent en fractionné pour qu'elle l'assimile le mieux possible.
Donc tu as 350
brebis, hein, voilà, 350 mères et 120 agnelles pour renouveler 30% du troupeau chaque année. C'est une norme, que nous on se donne sur notre exploitation pour conserver un bon niveau laitier, avoir toujours un lait de qualité. Donc toutes les brebis qui ont des problèmes de lait, ben on va les réformer. Puis il va y avoir les mortes et tout ça fait que on a besoin de 30% de renouvellement chaque année pour renouveler le troupeau.
Et le nombre de bêtes de brebis 350, le chiffre, c'est parce que ça correspond à l'espace que tu as ou...
Ça correspond à la surface, surtout au nombre d'hectares qu'on a, parce qu'en fait, eh bien, il faut pouvoir nourrir ces brebis. Et en soi, encore, donc du coup, on a 50 hectares, 350 brebis, 120 agnelles et 20 béliers. Et ça fait un peu juste, surtout des années comme celle-ci de sécheresse. Il faudrait avoir moins d'animaux encore.
T'as combien de béliers ?
20 béliers.
Eh bien, ils sont où ? Je les ai pas vus ici.
On pourra aller les voir, ils sont juste derrière la bergerie.
Ah bah les voilà.
Voilà, donc là on a les 20 béliers devant nous, donc les 20 béliers adultes, dont on se sert pour la reproduction du coup, avec dans la case du fond 4 jeunes béliers. Alors toujours pareil, c'est le renouvellement des vieux béliers. Sachant que chez nous, il y a une particularité, c'est-à-dire qu'une partie des béliers est vasectomisée. Il y en a 9 exactement qui sont vasectomisés. Parce qu'en fait, ils nous servent à déclencher les chaleurs sur les brebis au début. Et ensuite, repérer les chaleurs des brebis pour que nous, on puisse venir les inséminer avec des paillettes de béliers qui sont améliorateurs. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas des béliers que nous, on possède, c'est des béliers d'un centre d'insémination. Et donc du coup voilà, ils nous servent à ça. Et nous, l'insémination va nous servir à avoir des produits, donc des agnelles issus de l'insémination qui auront un potentiel génétique et donc un potentiel de production de qualité du lait, d'aplomb, de tous les facteurs de sélection qui sera meilleur qu'une agnelle issue d'un bélier lambda, je dirais.
Mais alors ceux qui ne sont pas vasectomisés ?
Ben, en fait, ceux qui ne sont pas vasectomisés, ils vont être là pour faire le boulot que nous, on n'aura pas réussi à faire, c'est-à-dire toutes les brebis qui n'auront pas retenu de l'insémination, voilà, c'est le terme, hein, elles retiennent ou pas, et ben, elles vont être saillies par ces béliers-là. Et celles qui n'auront toujours pas retenu de ces béliers-là, ça sera des brebis qui seront réformées à la fin de la campagne.
Alors les béliers n'ont pas toujours bonne, très très bonne réputation, c'est pas commode.
Alors c'est vrai que le bélier n'a pas bonne réputation. Après c'est pas comme ça n'a pas tout à fait le même comportement qu'un taureau. Il faut savoir que le bélier est un peu filou parce qu'il va jamais nous foncer dessus par devant, mais souvent par derrière. Donc c'est là où il faut faire attention parce que ça peut vraiment faire mal.
Alors à côté
de la bergerie, du coup, ben, la salle de traite. Hein. Là où on va les traire deux fois par jour.
Uh-huh. À quelle heure ?
Alors le matin à 6h et le soir à 6h. En général, il faut qu'il y ait à peu près 10h de décalage entre les deux traites. Hein. Donc on va aller voir. C'est une salle de traite deux fois 24 postes, c'est-à-dire qu'on traite 24 brebis à la fois. D'accord. D'un côté. Et il y a 24 brebis de l'autre côté qui sont soit en train de se faire finir de traire, soit qui arrivent ou soit qui vont partir. Ce qui fait que on met à peu près une heure et quart pour traire les 350 brebis qu'on a.
Ça fait combien de lait
Alors, en début de campagne, elles commencent à 3 litres. En fin de campagne, elles sont à 700 grammes à peu près. Et pour une campagne totale, où elles font chez nous, parce que ça dépend des élevages, entre 300 et 350 litres par brebis.
Alors, un petit peu plus loin dans le couloir.
L'atelier de transformation.
L'atelier de transformation, donc le labo quoi,
voilà,
c'est
le labo,
où vous faites le fromage.
C'est ça, exactement. Donc, alors c'est le lait, il va directement, donc, c'est-à-dire il sort directement du pied de la brebis et par le lactoduc, il va dans le chaudron où on fait le fromage ou dans le pasteurisateur où on fait le yaourt. Voilà, il est constitué de trois pièces, un sas d'entrée où on se change pour être en tenue, entre guillemets, de cosmonaute le plus propre possible pour ne pas contaminer le produit. Ensuite, la pièce de transformation où là on va réaliser toutes les opérations de coagulation, d'ensemencement, de moulage, de décaillage, de pressage, d'égouttage. Tout ce qui est en lien avec la fabrication du fromage ou du yaourt va se passer dans la salle du milieu. Et ensuite, une fois le produit fini, il va passer dans le sas de sortie, donc où il sera conditionné de manière à ne pas être contaminé par un élément pathogène. Il va passer dans le sas de sortie et pour finir, donc du coup sous la maison, donc soit à la cave, soit pour tout ce qui est fromage, soit à la chambre froide pour tout ce qui est yaourt. Et voilà.
Allez, on sort et direction maintenant la maison, hein, et la boutique au rez-de-chaussée.
Sous la maison familiale, du coup, qui était à mes parents avant et que j'ai racheté il y a 2 ans maintenant. Donc, toute la partie du bas est consacrée à la partie professionnelle, donc c'est-à-dire tout ce qui est. Donc, il y a la cave d'affinage, il y a les chambres froides pour stocker les yaourts, il y a la partie magasin. Et également la partie bureau, une petite partie cuisine pour manger nous quand on rentre de la ferme. Voilà, la partie buanderie, tout ça, tout ce qui est, on pourrait croire, pas forcément de la ferme, mais qui au final, on a besoin de laver nos salopettes, on a besoin de manger à midi, donc voilà. Et le reste de la maison, est en colocation, c'est-à-dire que sur une grosse baraque comme ça, j'ai décidé d'en faire profiter un peu d'autres personnes. Donc du coup, on est 6 à vivre dedans. Au moins, on optimise bien les mètres carrés et à un prix défiant toute concurrence et tout en mettant de l'ambiance. Surtout quand on est jeune, c'est important d'avoir une bonne ambiance dans une maison comme ça.
Là, c'est la boutique
avec la partie comptoir un peu où on vend. Alors, le sam Au début, on avait commencé avec des horaires d'ouverture le samedi matin, mais ça s'est transformé en un peu tout le temps. Et quand je réponds au téléphone comme ça, ça bloque personne. Moi, ça me bloque pas. J'ai pas besoin de tenir une permanence. Et les gens n'ont pas besoin de venir forcément le samedi. Ils peuvent venir d'autres jours. Voilà, ils m'appellent et j'ai mon numéro de téléphone devant la porte. Quand je suis là, je peux les servir. Quand je suis pas là, je peux pas les servir. Mais en soi, c'est pas grave. Ça reste du fromage et du yaourt. Donc, ils peuvent repasser une autre fois. C'est pas un souci. Et donc, voilà.
Et alors, la boutique, bah, tu vas me dire ce que tu vends.
Alors oui, alors ce que je vends, donc je vends du fromage, donc de la tome de brebis, décliné en plusieurs sortes de tomes, des tomes à pâte molle, à croûte grise, à croûte orangée, type raclette, type reblochon, bien que ça n'ait rien à voir, mais c'est un peu pour donner une image de à quoi ça peut ressembler. Ensuite, donc du yaourt de brebis, là, voilà, classique, yaourt nature, conditionné en pot de verre de 750 grammes avec consigne. Donc ça, c'était un peu notre... On voulait faire ça ben, pour plusieurs raisons. Pour l'aspect écologique, voilà, le moins d'emballage possible. Mais aussi pour l'aspect fidélisation de la clientèle. C'est-à-dire que ben, les gens sont contents de ramener leur pot aussi. Ça crée un peu un lien entre le consommateur et le producteur qui a marché. On ne savait pas au départ. On savait que ça existait, mais on ne savait pas si réellement... c'était bien ou pas, parce qu'on entendait de tout. Et nous, on trouve que c'est une bonne chose. Bien que ça soit compliqué à gérer, dans le sens où tout ce qu'on nous ramène, on doit bien évidemment le relaver, tout ça. Donc, ça nous demande quand même du temps de travail. Et ça, c'est pas négligeable, contrairement à s'il fallait utiliser un nouveau pot à chaque fois. Et ensuite, on vend également la charcuterie, comme je disais tout à l'heure, de nos cochons qu'on engraisse avec le petit lait. Donc, saucisse, copa, lonzo, pâté, jambonneau, pâté de tête, voilà. De toute façon, tout est bon dans le cochon, donc on fait de tout. Mais en salaison, pas en frais.
C'est le joyau de la...
La cave.
La cave, voilà.
Ah bah voilà.
Le trésor de la ferme où on stocke du coup tous les fromages de la production de l'année ou de l'année passée, pour les plus vieux. Et voilà, qui s'affine à peu près à 13 degrés et à 95% d'hygrométrie, avec sur des planches en sapin, dans une cave en pierre calcaire pour garder au mieux l'humidité et la température, bien sûr. Et elle est enterrée, voilà, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'utiliser le groupe froid. Vraiment, en cas de grosse chaleur, on l'utilise, mais c'est reste anecdotique.
Les fromages, là, alors, ils restent au maximum combien de temps?
Alors, ils restent au maximum, ben là, on en a encore de l'année dernière, mais c'est des tests, on va dire, pour voir qu'est-ce que ça donne. Jusqu'à présent, on en a vendu pour les plus vieux jusqu'à 14 mois. Et pour les plus jeunes, au minimum, il faut qu'ils aient 2 mois.
D'accord.
Pour être vendu.
Il pique un peu, 14 mois, oui. Il commence à piquer un peu.
Ah oui, il commence à piquer un peu. Je dirais que ça se rapproche un peu de la du gouda ou de la mimolette, hein, avec un peu des comme des cristaux de sel qui se font un peu. Et c'est vrai que oui, y a des goûts, enfin il y a des goûts pour tous les fromages et notamment pour ces fromages un peu plus forts. Voilà, c'est un peu plus du fromage d'amateur, contrairement à l'autre qui est un peu plus passe-partout parce que les arômes sont moins dégagés, on va dire.
Donc cette cave, c'est vous qui l'avez voilà, creusé.
C'est ça, exactement. On l'a creusé, mais on s'est fait aider d'un maçon quand même.
Ah ouais, ouais. Pour que les murs soient à peu près droits. Puis qu'il y a une voûte aussi. Ouais, attention, c'était un artiste le maçon.
Exactement, c'était un artiste, ouais.
Ces fromages, justement, là, que vous m'avez décrit, comment on les mange?
On les mange, je dirais déjà à température ambiante. Ça, c'est le premier point. Hein. Faut pas que ça sorte du frigo. Après, ça peut se décliner comme on veut, mais sur une tartine de pain, moi, c'est ce que. Voilà, le classique, hein, c'est ce que je préfère. Après, oui, on peut mettre de la confiture, on peut s'en servir pour agrémenter des plats, surtout selon l'affinage où il est, pour faire une soupe au fromage, ça peut aller super. Non, il y a plein de façons de l'utiliser, mais moi, ça restera ouais, le pain sur le fromage, classique.
Olivier Berdaguet et ses produits fromage et yaourt de brebis sont à retrouver notamment le mercredi au marché de Rodez. Sinon, vous pouvez aller directement à l'exploitation. Vous l'avez entendu, c'est Chemin de la Porte à Flavins.